Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville. Ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé, c'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Alors, pour ceux qui ont vu peut-être Louis-Philippe se préparer à la dernière seconde, il est avec nous, Louis-Philippe, salut.
Salut Antoine.
Gonneau qui est avec nous aussi.
Bonjour.
Pour nous parler de voitures anciennes cette semaine, comme ça sera l'habitude désormais. Alors, pour ceux qui nous regardent en direct, vous aurez remarqué que Louis-Philippe a décidé d'être marketing, M-A-R-K-K-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T- sur la table principale. On t'en remercie.
Ben oui.
Et des fois, ça peut être un livre de référence intéressant si on a un oubli.
Ben oui, c'est hein? ça. On peut.
Ça peut être pratique. Alors,
tout est dedans.
Il se peut qu'on ne le consulte pas, mais il se peut que à la dernière seconde, ben, on le ramasse pour aller chercher une donnée qu'on cherchait pour compléter une phrase. On verra. Cela étant dit, on va diviser, bien sûr, l'émission en quelques blocs. On commence par quelques actualités. Chronique rétro avec Hugues pour parler de la Thunderbird des années 80.
Yes.
Vous savez, le modèle très rond avec plusieurs versions de marques de vêtements, entre autres. C'était un peu particulier. On va faire le bilan des constructeurs cette semaine. On l'attribue à Genesis.
Pas le band, mais bien la marque.
Exactement. Parce que contrairement au band, la marque existe toujours, n'est-ce pas? Et ben, on va terminer avec nos essais de la semaine, que sont le Lexus TX et le Dodge Hornet. J'aime beaucoup dire le Hornet. Oui, le Hornet. On commence, actualité, qui en est une, mais qui en même temps a le complément de pouvoir être agrémenté par Louis-Philippe, qui est allé voir et découvrir ce véhicule-là. C'est le nouveau Equinox 2025 qui a été présenté cette semaine. Et je ne parle pas, bien sûr, de la version électrique
ben non.
Mais de la version...
À gaz
ou à essence, ou le véhicule qui rivalise avec les CR-V RAV4, CX-5, nommez-les tous.
Ben oui.
Alors, t'as aperçu ça. C'est un véhicule différent du véhicule électrique, ça n'a rien à voir. Là.
Ça n'a rien à voir, non. On lui a donné un look, tu sais que le 2024, cette génération-là, a un look plutôt arrondi. On lui a donné un look plus camion, comme on fait chez GM, mais un petit peu partout également.
Ouais.
Tu sais, la gamme là, chez Chevrolet, c'est gros. Là. Trax, Trailblazer, Equinox, Blazer. Ben, beaucoup de monde se trompe entre le Blazer et l'Equinox, pense que l'un est plus gros que l'autre. Par exemple, que le Blazer est plus petit et l'Equinox est plus gros, et c'est l'inverse. Ensuite, Traverse, bon, on nommera pas les Taos Suburban, c'est une autre classe, mais...
Mais t'es quand même nommé, là. Mais...
on les nommera pas, on les nommera pareil. Mais ouais. C'est de tout pour tout le monde, pour essayer d'aller chercher tous les budgets. Le Equinox est de retour, comme je disais, un petit peu plus large, 2,5 pouces, là, qu'on dit chez Chevrolet. Un véhicule qui... est offert en trois versions maintenant, LT, RS et Active. Active, c'est la nouvelle version avec des éléments axés un petit peu plus sur l'aventure, entre guillemets. Ouais, on parle d'esthétique, là, strictement. On a enlevé la déclinaison LS cette année, qui n'est pas là. Fait qu'on commence à LT.
Comme font les concurrents, c'est-à-dire que les versions de base sont retirées du marché parce qu'on veut niveler un peu vers le haut. En même temps, dans ce marché-là, c'est un marché de masse. Et Chevrolet, contre toute attente, a décidé d'amener un véhicule d'entrée de gamme avec la version LT, mais disponible en deux roues motrices.
Ben oui, c'est la seule qui est disponible au Canada en deux roues motrices. Les RS et Active sont avec le rouage intégral.
Ouais.
On a gardé le moteur, le 4 cylindres 1.5 litres.
C'est bien d'avoir
turbo.
Un moteur, ça aide ça.
On a gardé le même moteur, ouais, j'espère. Mais, par contre, on a changé les transmissions. La transmission à 6 vitesses qui débarque. Les modèles à roues motrices avant vont être avec une CVT. Et les modèles à rouage intégral vont être avec une nouvelle 8 vitesses.
Alors ça, c'est une CVT. J'ai pas l'impression qu'on va en vendre énormément. En fait, chez nous au Canada, ça prend des véhicules peut-être un peu plus accessible. Alors, ça sera peut-être la formule, mais évidemment qu'on va vendre davantage de 4 roues motrices.
Ouais.
Mais à la vue de ce produit-là, ça me donne l'impression que Chevrolet va être mieux armé pour rivaliser avec les meneurs du segment. Il y en a plusieurs meneurs, là. Le RAV4 qui est bon premier, CR-V
deuxième. C'est très compétitif, là.
Mais après ça, tu sais, au même niveau, tu as du CX-5, du Nissan Rogue, Kia Sportage, Hyundai Tucson. Il y a énormément de compétition.
Ouais.
Ford Escape, Ford Bronco Sport, ça rentre aussi là-dedans. Et moi, ce que j'ai hâte de voir, en fait, la première chose que je me suis dit en voyant ce Equinox-là, j'ai hâte de voir le GMC Terrain.
Ouais.
Parce que lui, il va être encore un petit peu plus musclé au niveau du look.
Parce que c'est GMC. Il
va quand même garder le 1.5, puis il semble pas qu'on ait d'idée pour amener le 2 litres. Hein? Alors ça, c'est peut-être un peu dommage, mais quand même,
ouais.
On va avoir quelque chose de pas mal plus intéressant à offrir que ce qu'on propose actuellement, parce qu'on est en queue de peloton.
Là. Ben, c'est ça. Puis, l'intérieur, évidemment, on a opté pour des plus gros écrans. Deux écrans, l'instrumentation.
Surprise!
Surprise. Ouais. 11 pouces pour l'instrumentation, 11.3 pouces pour le système d'infodivertissement qui est axé vers le conducteur. On a parlé chez Chevrolet, chez GM en général, d'abandonner les suites logicielles Apple CarPlay puis Android Auto, tout dernièrement.
Erreur,
grossièrement. En tout cas, elles sont tellement appréciées. Moi, j'ai confirmé avec les gens chez Chevrolet, quand j'ai vu le véhicule à Détroit, que ce nouveau Equinox-là est toujours équipé des Apple CarPlay et Android Auto. Donc, peut-être que c'est un tranquillement, pas vite, dans les nouveaux modèles, on va les enlever. Mais pour le moment...
Moi, j'ai plus le feeling qu'on va revenir sur notre décision.
Ben, écoute...
C'est un facteur d'achat aujourd'hui.
On tente le terrain en ce moment. Ouais. On a annoncé ça, puis je pense que la réponse a été extrêmement négative, parce que... Le Google Built-in, ça fonctionne. C'est juste que c'est tellement, les gens ont tellement adopté Apple CarPlay puis Android Auto qu'ils vont probablement, exactement comme tu dis, mettre ça comme facteur dans leur décision d'achat.
Absolument. Autre produit qui a été dévoilé, c'est l'évolution de la GTI, de la GTI de 8e génération, 8.5 en fait, parce qu'il y a des petits changements qui ont été apportés là-dessus.
Oui.
Il y en a un dont on connaissait déjà la nouvelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de boîte manuelle, mais on a apporté des changements cosmétiques à l'habitacle aussi et sous le capot.
Mm-hmm. C'est sûr qu'on a gagné à peu près 19 chevaux sous le capot, ce qui est la bonne nouvelle.
J'aime ça quand il dit à peu près 19 chevaux. Je trouve ça particulièrement précis. Ça dépend comment
en santé qu'ils sont, les chevaux.
Oui, c'est ça. Mais c'est 262 chevaux au total, ce qui veut dire 10 chevaux de moins que la première Golf-R. Donc, c'est quand même quelque chose. Puis ça demande une voiture à traction.
Ouais, c'est
et
ça.
Et uniquement avec la boîte DSG désormais.
Oui, mais une voiture à traction qui gère quand même bien son effet de couple, là, on va se le dire, avec les je pense qu'on l'a tout essayé, ce véhicule-là. Puis c'est un véhicule qui est quand même bien calibré. Toi,
Louis-Philippe, parce que tu gères bien ton effet de couple?
Parce
que Laurence m'a dit que ça allait très bien. On la salue d'ailleurs.
Bon. Tant mieux. Écoute, dans la GTI, c'est les écrans qui étaient le gros problème dans cette génération-là, je pense, hein, quand on a dit la première fois qu'on a embarqué dans ce véhicule-là.
Pour être propriétaire d'une Golf-R, je te le confirme.
Écran et plastique. C'était le plus gros problème. Là, on enlève la manuelle, on se demande, on va-tu enlever les sièges carrelés la prochaine fois dans la GTI, parce qu'on nous enlève pas mal tout. Là, l'écran est un petit peu plus gros.
Pour ta gouverne, on appelle ça le tissu Clark.
Le tissu Clark.
Alors, voilà.
Pas le carotté, Louis-Philippe.
Exactement.
Oui, puis on a gardé certains boutons, on a changé certains boutons sur le volant, etc. Puis comme tu dis, un petit peu plus de puissance. Mais c'est sûr, c'est déplorable. La transmission manuelle, là, on le savait depuis un bout de temps, mais là, c'est devenu réalité, on ne la verra plus.
Alors, modification au niveau des écrans dans l'habitacle, changement cosmétique aussi à l'extérieur, calandre, pare-choc, jantes qui sont très belles, qui ont été modifiées. On n'a pas encore de nouvelles de la Golf-R, mais on peut s'imaginer que ça va aller dans le même sens si, bien sûr, elle est de retour. Et y aura-t-il plus de puissance sous le capot de la Golf-R au suspense?
Mmh.
Mais chose certaine, cette GTI-là risque d'être bien intéressante, même s'il n'y a plus de manuel. Et la question que je me posais, y aura-t-il encore une manuelle dans la GLI? Parce que s'il n'y a plus de manuel dans la Golf-R, dans la GTI, ben la GLI demeurerait désormais, avec la Jetta, la seule disponible en manuel. Alors, ça pourrait devenir une espèce de plus-value pour ceux qui considèrent la transmission manuelle comme un incontournable.
Ouais.
Je veux aussi parler de VinFast parce que, bien sûr, ils font actuellement un stunt publicitaire incroyable au Salon d'Auto de Montréal en ayant sur place pas moins de 6 véhicules. Alors, ça fait énormément jaser. Et on peut même en faire l'essai avec le CAA Québec en périphérie du salon. Vous savez, vous pouvez essayer plusieurs véhicules électriques. Toyota BZ4X, Nissan Ariya. Bref, il y a énormément de modèles. Et le VinFast VF8. Mais, oh surprise! On a eu quelques petits pépins avec les VF8 sur place. Et ce que je me suis laissé dire, c'est que, bon, d'abord, réinitialisation d'écran, ça fonctionne pas parfaitement. On a des problèmes à gérer ce qui se passe dans l'écran.
C'est les mêmes problèmes que les propriétaires actuels relèvent là, sur leur véhicule en ce moment.
Il y en a un que j'ai trouvé particulier. Alors, on met le véhicule en reculons. Et vous savez, un véhicule électrique, ça répond instantanément. Donc, vous êtes en reculons, le véhicule n'est pas tout à fait immobilisé, on met ça en drive, on part. Ne pas faire ça avec un VF8, car ça vient de le mêler complètement.
OK. Essentiellement,
il y a plusieurs personnes qui ont voulu mettre ça en drive alors que le véhicule n'était pas complètement immobilisé depuis au moins une seconde. Et ça a créé un shutdown complet.
Bon.
Ce qui veut dire qu'il n'y avait plus moyen de mettre ça en reculons ni en drive. On était pris sur place. Et la seule façon de pouvoir régler le problème, c'était d'éteindre le véhicule, mais en même temps, ça ne s'éteint pas vraiment. Donc, sors du véhicule, verrouille-le, redébarre, embarque dans le véhicule, mets ça sur le drive et va-t'en.
Ouais. C'était une vieille blague d'informaticien à l'époque. On disait, bientôt les voitures seront comme Windows, va falloir le redémarrer, l'éteindre.
Control, Alt, Delete en premier.
Ça vient de commencer maintenant. Ben, en fait, t'as remarqué que dans le nom VF8, il y a F8. Alors, si tu pèses sur ton Alors, c'est peut-être ça la touche magique.
Vite, F8.
C'est ça. Et ironiquement, je me suis abonné à la page VinFast Québec, moi, la semaine passée, et là, je vois toutes sortes de messages passer. Et il y a quelqu'un qui est propriétaire d'un VF8 au Québec qui s'est fait rentrer dans le derrière.
Oui, j'ai vu ça.
Et as-tu vu que la lettre F était disparue? Donc, c'est un VinFast V8.
Ben, écoute.
Moi, ça, j'ai trouvé ça pas pire. J'ai trouvé ça très drôle. Cela étant dit, ouais, il y a des pépins avec le VinFast. Alors, on s'est fait poser des questions tout au long de la semaine sur VinFast.
Oui, ah oui, au Siam, oui.
Et bien qu'il soit très audacieux, j'ai encore un peu de misère à recommander ce produit-là, mais ça fait jaser.
Oui.
Chose certaine.
Les gens ont peur un peu, moi, qu'est-ce que...
J'espère pour
mes heures dans le kiosque, là, ben c'était, ouais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde ma réservation? Est-ce que je m'en débarrasse?
Ta réservation, t'as pas de réservation à avoir, ils en ont plein cours. Ils ont des troisième étage remplis de VinFast VF8 à Dorval.
Mais il faut qu'ils livrent, puis là, pour que les gens commencent à les rouler, puis que ces bugs-là ressortent, et puis que cette information-là soit envoyée à la maison mère, parce que c'est comme ça, comme on disait il y a quelques semaines, que c'est des mises à jour over the air, l'info nuagique. Il faut que ça roule, ça, pour avoir du feedback de ces véhicules-là. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va réparer les bobos là, chez VinFast,
c'est
pas le choix.
C'est quand même... J'irais quand même légèrement inquiétant. Les premiers sont arrivés cet été. On est au mois de janvier. On n'a pas l'impression que ça ait bougé tant que ça au niveau des mises à jour. Donc, il y a déjà quand même une latence de 6 mois.
Ben, en fait, il y en a eu des mises à jour, mais peut-être que ça en prend beaucoup.
Ouais, c'est l'impression que ce qui ressortait quand on lisait des essais un petit peu partout à travers différents journaux.
Ouais.
Mais en même temps... Moi, je ne veux pas me fier à ce qui a été écrit aux États-Unis parce qu'ils ont essayé là-bas des versions de pré-production qui ne sont pas celles qu'on a ici, avec des technologies qui ne sont même pas offertes ici. Fait que, tu sais, je vais me faire une tête sur vraiment le produit vendu ici, puis il y a une manne d'informations sur la page VinFast Québec que vous pouvez aller chercher là.
Oui.
Alors, moi, je trouve que c'est intéressant d'aller voir ça. Mais bref, le bilan n'est pas jusqu'à date hyper positif, du moins si je me fie à ceux qui sont organisateurs de ces essais de véhicules électriques au Salon de l'Auto de Montréal. Tesla, on en sait un peu plus sur le modèle qui va se situer au début de la hiérarchie de la gamme, donc sous la Tesla Model 3.
Ben oui, la Redwood, c'est parce qu'on donne des noms de projets là, chez Tesla. On se fait un fun fou avec Highland, avec la Model 3 qui est maintenant sortie et qui a débuté à être commercialisée là, au Canada. La Redwood, c'est la voiture abordable. On a déjà entendu ça là, avant, là, de la voiture abordable, une voiture à 25 000 US, une voiture à 35 000 US. C'est une voiture qui doit compétitionner avec BYD, le constructeur chinois qui a dépassé Tesla, puis c'est une grande menace pour Tesla. Et puis, cette voiture-là doit rentrer dans le marché, doit arriver pour être capable de sauver un peu la donne et donner la confiance aux investisseurs, parce que c'est tellement spéculatif souvent chez Tesla, il faut lancer un nouveau produit à chaque fois. Les Cybertrucks vont être très dispendieux à assembler. Ceux qui sont livrés maintenant, c'est ceux à 100 000 et plus, mais là, il faut commencer également à livrer ceux qui sont de base, entre guillemets. Donc, c'est difficile. C'est un gros procédé. Il faut rassurer les investisseurs, il faut rassurer les acheteurs.
C'est un succès garanti.
Ah, c'est quoi? J'ai aucun doute là-dessus. Mais ils connaissent quand même leurs problèmes d'assemblage, je veux pas. Et ce modèle-là à 25 000 US va venir un peu, comme tu dis, supporter, débuter cette gamme-là chez Tesla. C'est sûr que comme tous les constructeurs, on va commencer à 25 000 US. Là, après ça, ça va monter un petit peu quand ça va arriver sur le marché. Les versions plus dispendieuses vont être livrées en premier. Ça ne sera jamais sur à 25 000. Mais par contre, Tesla se doit de faire quelque chose de plus abordable justement pour faire face à la compétition asiatique là, qui est très forte.
D'autant qu'en Europe, ça hausse. Parce qu'on a tendance à l'oublier, le marché de la voiture compacte est en train de s'organiser dans l'électrique très très fort.
Ouais,
et là, Tesla, ils vont vraiment avoir besoin aussi d'avoir ce véhicule-là. On pense à la Volkswagen ID2. Il y a la Renault 5 qui va sortir l'année prochaine.
Mais... Juste dans les salons en Europe cette année, en 2023, justement, les constructeurs asiatiques étaient tellement présents, veulent prendre des parts de marché en Europe, ça s'en vient inévitablement ici. Là.
C'est clair.
Bon, évidemment que cette Tesla qui risque de s'appeler la Tesla 2, là, ou Model 2, si on peut se fier à ce dont on a entendu.
Une bonne déduction.
Ça pourrait aussi rivaliser avec la future Chevrolet Bolt, des produits comme ça. Mais on sait que ça ne sera pas une berline, mais ça va être une espèce de multisegment, là, qui, moi, me donne l'impression d'un format qui pourrait ressembler au VinFast VF6 qu'on a vu. Alors, peut-être un Chevrolet Bolt EUV un peu pimpé en termes de format. Là. Pensez à quelque chose comme ça.
Oui.
Ça sera aussi le cas de la prochaine Nissan Leaf, qui va être catégorisée comme un multisegment et non plus comme une voiture.
Comme une compact,
alors, c'est certain que ça sera la formule à adopter pour des véhicules électriques entre gros guillemets d'entrée de gamme dans l'industrie automobile.
Oui.
De son côté, Ford, devrais-je dire fidèle à ses habitudes, rappelle quelques unités avec des petits problèmes pour l'Explorer. Moi, ça me rappelle un certain... En fait, c'est un problème un peu moins grave que ce qu'on avait connu avec les Explorers au début des années 90 avec l'histoire des pneus Firestone.
Ah oui.
Mais c'est quand même 2 millions de Ford Explorer.
Oui, c'est pas un gros problème en tant que tel, comme tu l'as mentionné. C'est pas le même type de problème. Par contre, on a des pièces du véhicule, des pièces cosmétiques du véhicule qui peuvent se détacher pendant que le véhicule roule sur la route. C'est un rappel qui n'a pas causé d'accident encore selon les autorités, mais c'est quelque chose qui est essentiel à faire parce que, veux pas, si tu reçois un morceau de plastique dans le pare-brise sur l'autoroute qui vient d'un Explorer, ben, ça peut causer des problèmes.
Maison.
Alors, c'est des modèles
chers. C'est moins pire qu'un capot, remarque.
Là. C'est moins pire qu'un ou un gros morceau de glace là, qu'on voit aujourd'hui des fois.
Non.
2011 à 2019, c'est les modèles qui sont touchés par ce rappel-là. Et puis, bon, mais évidemment, c'est 2 millions de véhicules, comme tu le dis, c'est quand même assez.
Mais 2011, on s'entend-tu que la moulure peut se détacher parce qu'il y a des trous en dessous de la moulure, là? T'sais, la corrosion chez Ford, ça date pas d'hier. Fait que si la moulure tient plus parce qu'il n'y a plus de métal en dessous, ça aussi, ça se peut.
Ça se peut également, oui.
Bon, fait que. Mais puis j'aime ça parce qu'on rappelle des véhicules tellement vieux qui sont même plus sur la route. Fait que c'est un bon truc. T'es rappelle tellement tard que t'es certain de pas faire la job. On a fait ça chez Jeep récemment. On a rappelé des Grand Cherokee 2005. Ils n'existent plus, ces véhicules-là. Ils sont partis. Enfin, bref. Alors, si vous êtes propriétaire d'un Explorer 2011 à 2019, ça se peut que vous receviez une lettre si vous avez encore toutes vos moulures, bien sûr. Sinon, ben, ça ne vous concerne pas.
C'est ça.